Depuis plus de 40 ans, Aligre FM, votre radio culturelle, vous propose des programmes diversifiés, sans aucune interruption publicitaire. Parce que cette radio est la vôtre, vous pouvez nous aider. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le site aligrefm.org. Découvrez nos podcasts et laissez-vous guider pour faire un don en cliquant sur le lien en bas de page.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour à tous, vous êtes bien sûr Aligre FM et vous écoutez Vive le cinéma Perspective, une émission animée par Pierre Charpioz avec à la technique Enrico Mastro Giovanni et Sébastien François. Une fois par mois, sur le 93.1, en direct depuis la rue de Montreuil, nous accueillons un historien, un critique, un programmateur ou un chercheur en cinéma ou encore un cinéaste pour revenir sur un moment, sur une période, sur une personnalité de l'histoire du cinéma. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un spécialiste d'une certaine histoire un peu oubliée du cinéma français. Après une biographie de la star des années 30, Annabella, et du bout du cinéaste français de la première moitié du XXe siècle, Léonide Mogi, il publie un riche ouvrage sur une autre légende oubliée, la comédienne Gisèle Pascal. Bonjour Éric-Antoine Lebon.
Bonjour Pierre et bonjour aux auditeurs d'Aligre FM.
Alors, votre ouvrage s'intitule « Gisèle Pascal, la princesse sans couronne ». C'est donc le nom de cet ouvrage publié aux éditions de L'Harmattan. Alors, Gisèle Pascal, si on met un peu des bornes chronologiques, on s'intéresse au cinéma de quelle période ?
Des années 40 et 50, même si elle a poursuivi sa carrière dans les années 80, dans des seconds rôles.
Et vous la présentez comme une princesse sans couronne.
Oui, à double titre, parce que donc elle est vraiment très connue pour avoir été la compagne de Régnier de Monaco dans les années 40, alors qu'il n'avait pas encore rencontré Grace Kelly. C'est une histoire d'amour qui a fait la une des journaux. Et également princesse sans couronne, je veux dire, parce que c'était aussi une princesse de l'écran, un peu une sorte de fée du cinéma des années 40, comme ont pu l'être à cette époque aussi Daniel Darrieux ou Diana Durbin. De charmantes divettes qui jouaient dans des films de divertissement, mais sans couronne parce qu'en fait elle n'a jamais été vraiment reconnue par le cinéma de cette époque. Elle a reçu très peu de prix, et ce qui est injuste parce qu'en fait c'était une comédienne de talent.
Oui, elle n'a pas reçu peu de prix, elle était connue à son époque malgré tout.
Elle était très connue à son époque. À la fin des années 40, elle figurait vraiment en peloton de tête des comédiennes les plus célèbres du cinéma français. Il y a même un sondage en 1948 qui l'a classée première.
Mais comment vous expliquez alors justement qu'il y a si peu de reconnaissance par rapport à ses collègues, comparses, comédiennes ?
Eh bien, parce qu'en fait, elle a beaucoup joué donc, dans un cinéma très populaire, essentiellement un cinéma de divertissement, enfin, pour les masses populaires, c'est-à-dire à la fois donc, des films comiques, des comédies musicales, puisqu'elle chantait beaucoup, et également des mélodrames, comme on appréciait beaucoup cela à l'époque. Et elle n'a pas eu la chance de jouer avec de très grands cinéastes. Elle n'a pas joué avec Jean Renoir, Marcel Carné, qui ne lui ont pas proposé, d'ailleurs. Donc voilà, elle était un petit peu peut-être considérée comme une artiste d'un certain cinéma commercial, populaire, mais pas forcément justement admise dans un cercle plus restreint d'un cinéma intellectuel et davantage reconnu par ses pairs.
Un cinéma de qualité française, pour reprendre un peu la terminologie,
oui.
de la nouvelle vague. C'est peut-être aussi la nouvelle vague qui fait qu'on s'est un peu désintéressé de ce cinéma-là à partir des années 60.
Voilà, c'est ça. Et elle était vraiment identifiée à ce qu'on appelait le cinéma de papa, hein. Vraiment.
Et elle n'a pas continué justement à cause, vous pensez que c'est une des raisons, c'est la nouvelle vague, cette envie d'un nouveau cinéma qui fait que ces icônes d'avant ont un peu disparu de la mémoire collective ?
Oui, elle a un peu, elle s'est effacée un peu avant, progressivement à partir du milieu des années 50, parce que aussi donc elle véhiculait l'image d'une sorte de la jeune fille idéale à l'époque de la Libération, et cette image a été un peu battue en brèche avec l'arrivée de Brigitte Bardot, Françoise Arnoux, Mylène de Mongeau, Pascal Petit, beaucoup de nouvelles actrices qui correspondaient mieux à un changement de société, à un rôle de la femme qui n'était pas plus celui de l'éternelle petite fiancée comme l'était Gisèle dans les années 40, mais des femmes plus libérées qui s'affranchissaient du joug de leur mari, de leurs parents, pour mener une vie plus indépendante. Et du moins, le personnage cinématographique de Gisèle ne correspondait plus à cela, et je pense que ça explique beaucoup une des affections du public à la fin des années 50. Et après, évidemment, parallèlement, Gisèle s'était mariée avec le grand comédien Raymond Pellegrin, qui a été vraiment très très célèbre dans les années 50 et 60, et elle s'est volontairement mise en retrait, suite aussi évidemment au peu de propositions qu'elle recevait, en se tournant davantage vers le petit écran.
Oui, Raymond Pellegrin, qui est un acteur aussi avec une filmographie très impressionnante, mais malgré tout qui aussi aujourd'hui n'est pas familier du grand public.
Mais c'est dommage, parce que je trouve qu'il avait un talent extraordinaire et aussi une voix très particulière, et j'avais été choqué quand, lors de son décès, peu de temps après Gisèle Pascal, puisqu'on avait remarqué que c'était le décès de la voix de Fantômas, parce que c'est vrai que Raymond Pellegrin avait prêté sa riche voix au personnage de Fantômas dans la célèbre série Archie, rediffusée à la télévision avec Louis de Funès, et je trouve que c'est vraiment une image très tronquée de Raymond Pellegrin, qui est un acteur qui a tourné dans beaucoup de films à Hollywood, en Italie, en France, et qui a beaucoup joué au théâtre également, et qui avait vraiment un personnage très très riche, aussi bien à l'écran qu'au théâtre. Et voilà, je trouve ça un peu triste que Raymond Pellegrin soit si oublié.
Oui, Raymond Pellegrin qui a joué aussi aux États-Unis. Gisèle Pascal, elle n'a pas eu cette opportunité de faire une carrière transfrontière ?
Eh bien, à un moment, alors donc, à la fin des années 40, quand elle était si populaire en France, elle a reçu une proposition de la Warner Bros. Évidemment, les studios américains s'intéressaient beaucoup aux vedettes françaises, et elle l'a déclinée, parce que donc, Gisèle Pascal a toujours favorisé sa vie personnelle. Ça peut paraître un peu curieux par rapport à tous ces artistes très carriéristes. Elle, entre un tournage avec un réalisateur sympa dans les studios de la Victorine, elle a beaucoup tourné dans les studios niçois de la Victorine, parce que donc elle est originaire de Cannes et ses parents habitaient dans les parages. Et puis elle avait également son compagnon, le prince Rainier de Monaco, qui habitait à Monaco. Et bien, elle préférait tourner avec un réalisateur très moyen que dans les studios de la Victorine qu'à Paris avec un très bon réalisateur. C'était une façon finalement qu'on peut comprendre, une façon de mener sa vie professionnelle que d'aucuns peuvent d'ailleurs mener dans la vie courante, hein. Et voilà, mais ça, voilà, ça explique aussi, voilà, peut-être que les choix des films n'ont pas été forcément toujours très marquants.
Vous avez passé à côté de quelques rôles qui auraient pu changer la donne?
Pas tant que ça, parce qu'en fait, finalement, on ne lui a pas tant proposé de rôle particulièrement intéressant ou prestigieux. Et à un moment, il était question d'un film avec René Clément, avec Jean Gabin. Donc apparemment, il s'agissait d'Au-delà des grilles. Donc dans le film, en fait, finalement, c'est Isa Miranda, la star italienne, qui joue aux côtés de Jean Gabin. Donc là, ça aurait vraiment apporté un peu de richesse à la carrière de Gisèle. Il faut quand même préciser que Gisèle a tout de même tourné avec Maurice Tourneur, avec Marcel Lherbier, Sacha Guitry. Hein. Elle a quand même quelques bons points dans sa carrière. S'agissant d'Hollywood plus particulièrement, donc en 1953, Gisèle a une liaison sentimentale avec Gary Cooper, le superstar américaine. Et à ce moment-là aussi, on a parlé d'un film avec Gary Cooper, une coproduction franco- et espagnole-américaine. Et bon, voilà, mais qui a tourné court, tout comme leur liaison d'ailleurs.
si on peut citer quelques films de la filmographie de Gisèle Pascal, peut-être les plus notables.
Alors, je vais commencer par le premier. C'est, enfin, hormis une courte apparition dans Les Deux Timides, donc le film qui a lancé Gisèle Pascal, c'est L'Arlésienne. C'est, donc, elle ne joue pas le rôle de l'Arlésienne, parce qu'évidemment, l'Arlésienne, on ne la voit jamais dans ce film. Elle joue le rôle de donc, c'est l'adaptation de la célèbre nouvelle d'Alphonse Daudet. Et elle donc, joue le rôle de la triste Vivette qui est amoureuse éperdument, mais sans espoir, du beau Frédéric, incarné par Louis Jourdan. Donc, c'est un beau film. Dans lequel Gisèle a été très remarquée. Alors après, parmi ses films les plus importants, j'indiquerai Mademoiselle s'amuse en 1947. C'est une comédie musicale de Jean Boyer et qui a été un très gros succès commercial. Parce que donc voilà, faut se reporter aussi à cette époque-là, donc après-guerre, donc c'était l'époque du rationnement, etc. Les gens avaient absolument besoin de rêver, de s'évader de la réalité quotidienne avec des comédies un peu simples, chantant en français, parce que c'est vrai que d'un autre côté, bon, à cette époque-là, il y avait ces merveilleuses comédies musicales américaines, mais les Français préféraient écouter les artistes chanter en français. Donc, je note la même année, en 1947, et on distinguera Après l'amour, c'est un mélodrame de Maurice Tourneur, c'est un bon film, c'est un remake d'un film des années 30 qui avait été joué par Gaby Morlaix, et c'est un film dans lequel Gisèle Pascal a été particulièrement remarquée, parce que donc, c'était une histoire, un mélodrame échevelé avec une histoire vraiment archi-dramatique de bébés échangés, de mari trompé, et Gisèle tient dans ce film le rôle le plus sympathique, et dès lors que ce mélo a fait beaucoup couler de larmes, et Gisèle a attendri les spectateurs avec ce rôle. Et après, je distinguerai en 1953 Horizon sans fin. Horizon sans fin, c'est vraiment le film dont elle était la plus fière. C'est un film de Jean Dréville, une biographie de l'aviatrice Hélène Boucher.
Oui, personnage féminin fort aussi, et des films qui résonnent particulièrement peut-être aujourd'hui ou qui sont intéressants à redécouvrir aujourd'hui et qu'on a oublié pour la plupart.
Voilà, c'est ça. Après, sur un plan très personnel, c'est ainsi que j'ai découvert quand j'étais enfant Gisèle Pascal, parce que j'habite à côté d'un arrêt de bus Hélène Boucher. Et quand le film a été diffusé à la télévision un après-midi, parce qu'à cette époque-là, dans les années 70, on passait encore beaucoup de films en noir et blanc à la télévision, j'avais absolument voulu le regarder, parce que le programme de Télé 7 jours parlait de cette Hélène Boucher, donc j'ai eu envie de regarder ce film, et c'est ainsi que j'ai découvert Gisèle. Et dans ce film, Gisèle abordait un personnage différent, c'était plus la gentille petite fiancée des comédies musicales ou de Mademoiselle s'amuse. Là, la voici donc dans le rôle d'une femme battante qui essaie de trouver sa place dans un univers essentiellement masculin. Et le film n'est pas facile parce que justement, il évite tous les poncifs du genre. Il n'y a aucune histoire d'amour. C'est vraiment tourné de façon presque documentaire. Et donc Gisèle s'est pris vraiment au jeu puisqu'elle a appris à conduire un avion pour tourner elle-même les scènes. Et il y a beaucoup de crédibilité et même de retenue dans son jeu, sur lequel passe surtout un regard avec une grande profondeur. C'est vraiment une interprétation qui a été jugée parfaite à l'époque, mais qui, malgré tout, qui ne lui a pas valu de prix au Festival de Cannes, puisque le film y a été elle a présenté ce film à cette occasion au Festival de Cannes, et pour elle, c'était une grande fierté, puisqu'elle était cannoise.
Ce rapport au Sud est effectivement important. Elle est née à Cannes, elle est décédée à Nîmes. Son premier rôle important, c'est dans L'Arlésienne. Et vous ouvrez votre livre avec une citation de Frédéric Mistral, le prix Nobel provençal. Oui. Il y a un rapport important aussi à cette... côté presque régionaliste, même si elle a vécu longtemps à Paris.
Oui, vraiment. Et elle affectionnait même les tenues provençales, les tissus, etc. Et pendant sa jeunesse, elle a suivi les cours de l'Académie provençale, un institut qui existe toujours. On apprenait le folklore, les danses folkloriques, etc. Et donc, sur les bancs de cette école, il y avait aussi Gérard Philipe. Parce qu'en fait, Gisèle Pascal a bénéficié d'une chance assez assez inouï, en fait, qui pourtant se noue autour d'un événement tragique, c'est qu'en 1940, donc c'est l'exode. Et là, il y a beaucoup d'artistes du monde, aussi bien du spectacle, du théâtre ou du cinéma, et beaucoup de Français d'ailleurs, ont pris la route pour se sauver. Et certains, donc certaines vedettes de théâtre ou des professeurs d'art dramatique se sont établis sur la Côte d'Azur en zone libre. Et c'est le cas notamment de Jean Val, qui était un grand professeur d'art dramatique et qui dès lors a ouvert les portes de son école et a recentré son activité sur Cannes. Alors ça a été une aubaine incroyable pour des jeunes filles comme Gisèle Pascal qui ne serait jamais montée à Paris et qui ont comme ça eu l'occasion de prendre des cours. Elle avait un petit problème de diction et donc elle s'est inscrite ainsi aux cours, de même que Gérard Philippe, Daniel Delorme et d'autres personnes qui vivaient en fait dans les environs de Nice ou de Cannes et qui en fait n'auraient peut-être pas eu leur fabuleuse carrière s'il n'y avait pas eu cet événement tragique.
Oui, dans certains films, elle a un accent du Sud.
Oui, c'est d'ailleurs pour cela qu'elle a été embauchée dans l'Arlésienne. Alors la légende raconte que Gisèle Pascal vendait des tomates sur le marché de Fortville et que le réalisateur Marc Allégret, qui passait par là, a été séduit par l'accent chantin de Gisèle en train de vendre ses tomates. Alors après, les versions ont vite changé. Hein. On a dit qu'elle vendait des fleurs, qu'elle vendait du poisson. Enfin, donc ça semblait quand même un petit peu curieux. Et par la suite, elle a changé deux versions. Donc apparemment, c'est Marc Allégret l'a rencontrée alors qu'il faisait de la moto et puis il l'a croisée sur la croisette, c'est le cas de le dire. Et elle était tellement belle qu'il a été subjugué et lui a proposé le rôle de Vivette dans l'Arlésienne parce qu'il cherchait, il voulait absolument un accent provençal original et pas une comédienne comme les autres interprètes, certains autres interprètes de ce film comme Gaby Morlet qui ont été obligés de feindre un accent provençal. Donc en effet, oui, il y a un côté très très provençal dans la carrière de Gisèle.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
On continue de parler de Gisèle Pascal avec Éric-Antoine Lebon. Alors, c'était qui sa principale concurrente? Parce qu'on sait qu'à cette époque, voilà, les actrices, chacune est un peu liée à un type de rôle, à une sorte d'emploi. Et il me semble qu'elle était pas mal en concurrence avec une actrice qui, elle, est peut-être un peu plus connue aujourd'hui.
Oui, avec Danielle Darrieux. Alors, Danielle Darrieux était devenue très célèbre au fil des années 30 et dès le début des années 30, parce qu'elle a débuté extrêmement jeune, dans justement des rôles de jeune fille prime sautière, un peu hardie, dans une série de comédies qui n'est d'ailleurs pas forcément inoubliable, donc elle a fait dans les années 30, où elle chantonnait un peu comme Gisèle, et elle avait ainsi vraiment gagné le cœur du public en devenant, à partir de 1935, l'actrice préférée des Français. Et Gisèle donc a eu un petit peu ravi la place parce qu'en fait Danielle Darrieux a connu quelques difficultés à la Libération et elle a continué à tourner des films, mais on sentait que la profession, elle avait du mal quand même par rapport à la profession qui était particulièrement sévère avec les films qu'elle tournait. Pourtant elle continuait quand malgré tout à avoir du succès auprès du public, et Gisèle lui a un petit peu succédé dans ces personnages de jeunes filles un peu téméraires, un peu agaçantes parfois, parce que dans Mademoiselle s'amuse, Gisèle joue le rôle d'une capricieuse fille de millionnaire qui est tellement insupportable que par sa dernière lubie, c'est de vouloir de demander à l'orchestre de Reventura de l'accompagner du matin jusqu'au soir dans tous ses déplacements. Alors c'est le genre de comédie un peu farfelue que Danielle Darrieux jouait autrefois. Et c'est vrai que Danielle Darrieux a eu la chance de rencontrer son mari Henri Decoing, qui lui a permis d'évoluer vers des personnages plus intéressants. Et d'ailleurs, elle l'avait bien certifié. Elle a dit que si elle n'avait pas rencontré Henri Decoing, peut-être qu'elle aurait continué encore à jouer ces petites comédies gentillettes. Et en fait, Gisèle Pascal lui a ravi un peu la place. Et à la fin des années 40, pendant que Danielle Darrieux a vraiment connu un recul dans sa carrière, qu'elle a vraiment après infiniment rattrapée par la suite, parce qu'elle a eu énormément de succès dans les années 50 en jouant dans des chefs-d'œuvre du cinéma. Mais voilà, Gisèle a pu ainsi s'imposer dans des rôles de ce genre. Un peu, on l'a beaucoup comparée aussi à Diana Durbin, la chanteuse, la divette des comédies un peu musicales de l'Universal des années 30 et 40.
Oui, c'est vrai que c'est intéressant quand on se replonge dans ce cinéma populaire des années 30 ou de l'après-guerre, c'est redécouvrir aussi un cinéma qu'on, effectivement, comme je disais tout à l'heure, qu'on connaît assez peu, mais paradoxalement, qui ressemble beaucoup au cinéma américain, qu'on apprécie des comédies musicales, des histoires d'amour, des intrigues un peu facile, mais en même temps assez fascinante, qui sont aussi bien faites, bien jouées. C'est assez drôle de voir qu'on est très très enclin à aimer ça dans le cinéma américain, mais aussi à l'oublier un peu dans le cinéma français. Quand on pense au cinéma français de cette époque-là, on a tendance plutôt à penser à Godard, à Truffaut, et à oublier un peu ce qu'il y avait avant.
Oui, tout à fait. Tout est un cinéma populaire. Je pense notamment à un film que Gisèle Pascal a joué avec Claude Dauphin, qui a été son mentor, Tombé du ciel. Alors, c'est une petite comédie, mais dans laquelle on retrouve un peu le charme de ces screwball comédies des années 30 de Frank Capra. Il y avait comme ça une même énergie. Donc, évidemment, le souhait impératif de distraire les gens, parce que c'était vraiment, comme on l'a déjà dit, à une période particulièrement sombre où les gens avaient besoin de chansonnettes, d'évasion, de choses un peu faciles, ou alors au contraire très très tristes pour s'émouvoir. Voilà, et Gisèle était vraiment une des comédiennes les plus aimées de cette époque, aussi parce qu'elle projetait en fait une personnalité douce, humaine, sentimentale, et qui une chaleur très personnelle qui a vraiment plu au public.
Si on tape Gisèle Pascal aujourd'hui sur Internet, ce qui tombe en premier, c'est des articles en général de gala ou de voici ou de point de vue en raison de ses nombreuses histoires d'amour et une... Oui. En particulier, alors on a cité Gary Cooper, on peut citer encore Yves Montand aussi, avec qui elle a eu une liaison, et bien sûr le prince Rainier, avant une autre comédienne, oui. Grace Kelly. Elle aurait pu devenir princesse de Monaco, finalement.
Oui, elle aurait pu. Je pense qu'elle a pensé qu'elle pouvait devenir princesse de Monaco. Elle a rencontré en 1942 Rainier de Monaco, qui était alors étudiant à Montpellier. Et Gisèle effectuait sa première tournée théâtrale avec une opérette de Jean Nohain qui s'appelait « Plume au vent ». Et donc, il lui a offert des fleurs à l'issue du spectacle. Et par la suite, Rainier qui aimait beaucoup le monde du show business, les danseuses, les actrices, donc a vraiment noué une relation sentimentale de longue durée avec Gisèle, parce que donc c'était un fanfaron qui adorait la musique, le sport, qui conduisait des voitures de sport, qui est un nageur émérite, et Gisèle également, elle était très séduite par cette folie, ce goût pour l'amusement. Elle était très ronsardienne. C'est pour ça qu'elle a eu pas mal de d'aventures sentimentales. Et donc, quand elle a rencontré Rainier, lui était très jaloux et il a voulu vraiment, il lui a demandé d'abandonner sa carrière alors qu'elle était au fait de sa popularité. Et pendant un an et demi, elle n'a tourné aucun film pour être à ses côtés. Et dès lors, elle pensait qu'elle pouvait quand même prétendre à la couronne, mais malheureusement, c'est bien compliqué. Et dans la vie, donc les bergères n'épousent pas forcément, malheureusement, les princes. Et donc, voilà, il y a eu beaucoup de soucis, de problèmes avec l'entourage de Rainier et également... avec le prince Louis, donc le grand-père de Rainier, donc qui était le souverain, donc avant l'accession au trône de Rainier, et qui détestait Gisèle, qui était qu'une roturière, la fille de petits commerçants. Alors après, donc, vous me direz que pourtant, par la suite, il a épousé Grace Kelly, qui était aussi une comédienne. Mais donc, Grace Kelly était beaucoup plus fortunée. Et aussi, elle était américaine. Et au début des années 50, donc, Aristote Onassis, le célèbre armateur grec, est devenu l'actionnaire principal de la Société des Bains de Mer, qui gérait les casinos à Monte-Carlo. Et donc, il voulait vraiment trouver tous les moyens pour essayer de redorer l'image et renflouer le budget de la couronne qui était au plus mal, en faisant venir des capitaux américains. Et là, ils ont réfléchi et pensé qu'en fait, finalement, une comédienne, ce n'était pas gênant. Mais dans ces cas-là, il fallait une comédienne de calibre international. Voilà. Parce que Grace Kelly était vraiment une superstar. Hein.
Il a été dit aussi à l'époque de Gisèle Pascal qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, ce qui aurait pu compliquer.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est aussi la raison qui a été évoquée dans tous les journaux et qui a rendu Gisèle malade de chagrin que son intimité soit ainsi révélée dans les jours de la presse internationale. Et voilà, mais c'était en effet probablement aussi une des raisons pour laquelle elle n'a pu devenir princesse et pour laquelle ce roman d'amour, parce que c'était des gens qui se correspondaient parfaitement et qui se sont beaucoup aimés. Et Gisèle avouait plus tard qu'elle pense que Renier de Monaco l'a aimé encore plus qu'elle ne l'a aimé. Et pourtant, elle l'aimait beaucoup. Alors, en fait, l'histoire un peu partait dans une voie sans issue, puisque Renier de Monaco ne voulait pas entendre toutes les injonctions des différents conseils qui lui demandaient d'épouser au plus vite une personne qui correspondrait mieux à ce poste. Et donc, il a fini par... il ne prenait pas de décision. Alors, Gisèle, à un moment, c'est là qu'elle a rencontré Gary Cooper. Et puis, alors, voilà, je ne sais pas quelle est... Après, c'est difficile d'analyser pourquoi donc, elle s'est jetée dans les bras de Gary Cooper. Est-ce qu'elle voulait un peu provoquer une dernière réaction, une éventuelle réaction du prince, ou alors est-ce qu'elle a voulu tout simplement casser, arrêter cette histoire qui ne menait à rien, puisqu'elle n'aurait jamais pu l'épouser.
On ne sait pas, c'est toujours difficile d'interpréter, mais c'est aussi le jeu du travail de la biographie, de se faire son point de vue sur ce qui s'est passé, de dire peut-être qu'elle a pensé ça, peut-être que c'est comme ça que ça s'est fait. Mais ça doit être difficile, non, j'imagine.
Oui, c'est toujours difficile. Enfin, c'est toujours un exercice d'ailleurs assez fascinant d'essayer de comprendre l'artiste qui est l'objet de l'ouvrage qu'on écrit, parce que d'ailleurs on passe plusieurs. De nombreux soirs avec. Et c'est toujours un peu compliqué. D'ailleurs, d'ailleurs chacun d'entre nous, lors des différents événements, on a toujours plusieurs facettes et une façon d'interpréter les choses. Donc, c'est toujours un peu complexe. Mais justement, cette analyse psychologique est infiniment passionnante.
Et après, elles sont restées proches avec Renier de Monaco ou la séparation a été définitive ?
La séparation a été définitive. Oui. Même elle était persona non grata. En gros, elle ne pouvait plus remettre les pieds à Monaco. Je ne sais pas ce qu'il craignait de sa part, parce qu'en fait, elle a par la suite rencontré et épousé Raymond Pellegrin, avec lequel elle est restée toute sa vie. Et elle n'avait pas... contrairement à ce qu'ont raconté certains journaux, parce que la presse peu sérieuse a continué à broder sur une romance qui se poursuivrait entre Gisèle et le prince Renier, elle disait clairement qu'elle avait clos avec le prince, que c'était absolument terminé. Dans les années 60, elle avait l'intention d'écrire sa biographie, parce qu'en fait, ça lui était conseillé, puisque à l'époque, c'était encore une affaire très, dont on parlait énormément dans les journaux. Donc, elle l'aurait bien fait, mais vraiment, Monaco était absolument contre cette idée, Grace Kelly également, et donc elle a finalement préféré y renoncer.
En tout cas, on peut le découvrir, pas dans son autobiographie, mais dans sa biographie que vous publiez donc aux éditions L'Harmattan. Éric-Antoine Nebon, Gisèle Pascal, La Princesse sans couronne. Et on va entendre la voix de Gisèle Pascal avec une chanson, chanson issue d'un film, mais elle chantait également. On va entendre la chanson Un oiseau chante, 1945, sur Aligre FM.
Voici qu'à mes yeux l'univers est en fête, l'air me paraît plus léger, pour moi tout est changé, je crois perdre la tête. Un oiseau chante dans mon cœur et sa chanson est douce comme une caresse. Un oiseau chante dans mon cœur, c'est le printemps, tout est joyeux, tout est en fleurs. Il fait si beau sous les lilas, en souriant, l'amour nous tend les bras. Toujours plus tendre, plus charmant,
vous écoutez Aligre FM 93.1.
De retour sur Aligre FM 93.1, vous écoutez Vive le cinéma, Perspective, et nous parlons de la comédienne Gisèle Pascal avec Éric-Antoine Lebon. Et on vient d'entendre une chanson chantée par Gisèle Pascal, chanson qui fut très populaire en son temps. Elle a donc eu une carrière de chanteuse parallèlement à sa carrière de comédienne.
Absolument. La chanson qu'on vient d'entendre est tirée du film Madame et son flirt, hein, et elle a été composée par Loulou Gasté, le célèbre mari de Lynn Renault, qu'il venait tout juste de rencontrer. Lynn Renault a également enregistré ce titre. Alors Gisèle, en effet, a chanté dans ses films, tout comme Daniel Darieux chantait dans ses films des années 30. Et donc les chansons étaient essentiellement composé par Paul Misraki. Donc là, on a entendu une chanson de Loulou Gasté, mais dans ses films, notamment avec Ray Ventura, les chansons étaient composées par Paul Misraki, qui était un très très bon compositeur de chansons de films pendant des années, hein, jusque dans les années 70. Et il lui a troussé quelques adorables mélodies, comme notamment Sans vous, qu'elle chante dans Mademoiselle s'amuse, ou encore Avant de t'aimer dans La petite chocolatière. Ce sont ses plus grands succès. Néanmoins, elle a peu enregistré. Elle a fait que 6 faces de 78 tours. Pour, ben parce que, déjà, parce qu'elle n'était pas carriériste, donc elle n'a jamais essayé de, justement d'enregistrer régulièrement. Et également, comme elle participait au film produit par Ray Ventura, eh bien, celui-ci réservait l'exclusivité de la création des chansons à son orchestre.
Oui, le film de Ray Ventura, qui était des films musicaux. Oui, c'est une sorte de comédie musicale.
Oui, c'est ça. Assez pimpante, comme Mademoiselle s'amuse, hein, qui est réussie dans ce genre. Parce que donc, Jean Boyer, le metteur en scène, était assez doué. Et le film est très, très agréable, très amusant. Alors, il est maintenant, on en parle, j'ai vu sur la toile, sur Internet, on en parle parce qu'il y a une scène de blackface dans Mademoiselle s'amuse. Alors, où tous les invités d'une soirée organisée par l'intrépide millionnaire se grime en noir à sa demande. Et voilà, donc c'est vrai que maintenant, comme les mentalités ont changé, etc., ça paraît un peu curieux. Mais voilà, mais sinon, c'est un film absolument très, très agréable.
C'est un cinéma d'avant les années 50. Et c'est vrai que Gisèle Pascal, elle continue à tourner après les années 50. Mais sa carrière est un peu sur le déclin, l'âge d'or est derrière elle.
Voilà, parce que donc à son grand regret, Horizon sans fin, dont on a parlé en 1953, dans lequel elle a mis tout son cœur et où elle voulait aborder un changement de personnage, a eu du succès, mais pas tant que ça, moins que ces films musicaux. Alors, elle a essayé de changer de personnage. Elle a joué notamment dans un film de Raoul André. Alors là, évidemment, on évoque des réalisateurs qui sont quand même pas très bons. Marchande d'illusions, où elle joue le rôle d'une sorte de dame qui vient aider des prostituées. Et aussi, elle a joué dans Le feu dans la peau, un film de 1954 de Marcel Blisten, qui se voulait un peu léger, un peu osé, hein, pour l'époque, on entreaperçoit un sein de Gisèle Pascal. Ça a fait scandale parce que donc c'était, voilà, on se reporte à une époque bien 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 éloignée, alors que bon, le film n'a rien de spécialement choquant, mais voilà, elle a essayé d'un peu de challenger son personnage, d'aborder des rôles différents, mais le public ne suivait pas. Alors elle est revenue un peu à Mademoiselle de Paris, hein, une comédie du même genre basée sur la chanson de Jacqueline François, qui était une grande vedette de la chanson à l'époque. Et voilà, mais petit à petit, en effet, petit à petit, ou même assez vite, hein, sa carrière a décliné. Son dernier gros succès commercial, ça a été en 1955, La Madone des Sleeping. Alors ça, c'est l'adaptation d'un livre qui a été le livre le plus vendu et le plus traduit à une époque. Et l'adaptation par Diamant Berger n'est pas bonne, hein, et donc le film n'est pas bon. Il a eu paradoxalement du succès à cause de la réputation de l'ouvrage original, et aussi parce que Gisèle avait quand même fait parler d'elle avec sa romance avec Régnier, etc. Donc le film n'est pas bon. Alors ça a été un peu une mauvaise marque, en fait, parce que voilà, c'est un film qui attire beaucoup de spectateurs, mais dont ils sont, je pense, pas ressortis très heureux, parce que c'était quand même pas très réussi. Et voilà, et après sa carrière a décliné, et elle s'est du coup recentrée sur son rôle de femme au foyer.
Elle a été un peu boudée par les jeunes cinéastes qui émergeaient à cette période-là.
Absolument, pas du tout. D'ailleurs, elle a même avoué, hein, parfois avec beaucoup de sincérité, qu'elle ne recevait aucune proposition. Alors, heureusement, la télévision et l'ORTF, hein, est passée par là, puisque donc on faisait déjà de très belles choses, hein, à l'ORTF. Et donc Gisèle a pu prouver l'étendue de son talent d'actrice dans des personnages comme la princesse de Cadignan, ou alors le rôle de Marie-Antoinette, qu'elle tient dans un épisode de La Caméra explore le temps, et montrer qu'elle avait vraiment... qu'elle était une comédienne très versatile, beaucoup, beaucoup moins facile que la la jeune fille idéale des films des années 40. Et je trouve que, heureusement, maintenant, on peut revoir. Hein, il y a même un site qui s'appelle Madeleine pour redécouvrir un peu toutes ces œuvres de la télévision française des années 60. Mais ça vaut vraiment
Lina,
voilà. Ah oui, vraiment,
Madeleine.
Oui. Voilà. Et ça met vraiment en lumière tout le talent de Gisèle Pascal.
Oui, et puis à l'âge de 66 ans, elle arrête sa carrière, alors que c'est vrai que d'autres actrices de sa génération, je pense à Micheline Prel par exemple, vont continuer de jouer jusqu'à un âge très avancé. Elle prend sa retraite, ce qui est rare pour les comédiens.
Oui, elle prend sa retraite parce que, donc, dans les années 60, dans les années 80 plutôt, elle trouve des seconds rôles dans des films importants, La femme publique de Zulawski, dans Les compères avec de Weber, là, avec Gérard Depardieu, et aussi des rôles principaux dans des feuilletons télé, un feuilleton fleuve, une sorte de dynastie de Dallas à la française qui s'appelait Symphonie, et pour finir, un feuilleton allemand qui a été à peine exploité chez nous, mais qui s'appelle Tous en selle, qui a eu un très gros succès en Allemagne. Et dès lors, elle a fini en fait sa carrière en devenant une vedette de la télé allemande, parce que cette série pour la jeunesse a eu un grand succès là-bas. Et après, en fait, voilà, c'est une femme qui a toujours fait passer sa vie personnelle avant sa carrière. Et elle a voulu aussi s'occuper, rester près des siens et profiter de la vie.
Oui, parce qu'on disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant à l'époque de sa liaison avec Rainier de Monaco, mais elle a eu des enfants, elle a eu une fille qui a été comédienne notamment.
Elle a eu une fille. Alors bon, après c'est un peu il y a eu beaucoup de rumeurs, hein, concernant la naissance de cette fille. Pascal Pellegrin, alors c'était elle avait beaucoup de charisme, c'était une actrice blonde avec une peau très laiteuse qui avait beaucoup de charme et qu'on a vu dans des films de Truffaut, de Lelouch, dans Train d'enfer, de Roger Hanin. Elle avait vraiment un début de carrière assez incroyable qui commençait en fait finalement avec la même chance qui avait entouré Gisèle à ses débuts. Et puis finalement, elle n'a pas réussi à faire fructifier malheureusement ses jolis débuts et sa carrière s'est assez vite enlisée.
Elle est disparue assez jeune, oui. Un an après sa mère.
Oui, quelques années après sa mère. Oui, c'est voilà, elle n'est plus, mais Gisèle a toujours une petite fille qui s'appelle Mélanie.
Et justement, vous étiez pour travailler, pour pouvoir approfondir ses recherches. Comment est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous êtes allé à la rencontre de la famille ? Parce qu'il y a aussi, je ne l'ai pas dit, mais beaucoup de photos qui accompagnent le livre.
Oui, absolument. Il reste de la famille. Donc, Gisèle a des neveux. Il y a également le neveu, la nièce de Raymond Pellegrin qui m'ont donné beaucoup de renseignements. La présidente du fan club Gisèle Pascal, une dame qui une vichysoise de 90 ans, qui est absolument délicieuse.
Un fan club, Gisèle
Pascal. Alors, c'est-à-dire, elle tenait le fan club en 1953. D'accord. Mais c'est une femme absolument délicieuse d'ailleurs, et elle m'a donné pas mal de renseignements sur Gisèle et sa personnalité. Et aussi, j'ai fait également, évidemment, dans le cadre de cet ouvrage, pas mal de recherches qui m'ont mené jusqu'aux archives du ministère des Affaires étrangères, parce qu'évidemment, les aventures de Gisèle avec le prince de Monaco étaient quand même suivies de près, parce que les ambassades, et il y a donc toute une série de courriers qui ont été échangés entre la fin des années 40 et 1953, et donc qui ont pu alimenter et donner plus de voilà, j'ai trouvé pas mal de renseignements en effet sur les rumeurs concernant sa stérilité, l'intention de l'épouser, etc. C'était beaucoup de recherches absolument passionnantes dans des univers très différents.
Effectivement, vous nous avez expliqué comment est-ce que vous aviez découvert enfant le cinéma de Gisèle Pascal. Pourquoi est-ce qu'avoir voulu aujourd'hui lui consacrer un livre finalement?
En fait, donc, vous avez évoqué justement mes premiers ouvrages sur Annabella et Léonide Mogui, qui étaient nés en fait suite à des rencontres des opportunités. Et en fait, là, pour Gisèle, j'ai vraiment fait, ça a vraiment été un coup de cœur, un retour sur mon enfance. Là, ça m'a pas été particulièrement suggéré. J'avais envie de rendre cet hommage à cette actrice qui me semblait avoir été vraiment très connue, encore, qui était encore un nom hein, quand j'étais enfant, même s'il s'agissait essentiellement de rediffusions, parfois de tout petits rôles dans des feuilletons policiers à la télé. Et voilà, j'avais envie de lui rendre un coup de chapeau.
Vous êtes devenu, à force de livres, spécialiste de ce cinéma d'avant, oublié d'avant les années 50. Pourquoi cette passion pour un cinéma qu'on connaît finalement assez peu ?
Eh bien, c'est vrai que j'aime, comment dire, je vois parfois des écrivains rédiger une énième biographie de Marilyn Monroe ou de Romy Schneider, enfin qui des artistes extrêmement talentueuses. Mais c'est vrai que c'est moi, ça m'amuse d'aller en terrain vierge et d'essayer de remettre en lumière ces personnalités, d'essayer de faire redécouvrir tout un pan du patrimoine du cinéma français. Alors c'est vrai que pour l'instant je me suis essentiellement penché sur le cinéma français, mais j'avoue que c'est pour faire les recherches, c'est quand même beaucoup plus pratique.
Oui, parce que vous avez des idées pour un cinéma international également?
Éventuellement, parce que j'ai discuté avec Henri-Jean Servat qui a préfacé l'ouvrage et sur une série de portraits en fait d'artistes du cinéma international des années justement très oubliées des années 50-60, des vampes sulfureuses comme Tilda Tamar, d'Annick Pattisson que j'ai très bien connue ou autre Maria Vincent. Des noms qui ne doivent plus dire grand chose à... au cinéphile actuel.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Aligre FM 93.1 pour parler de Gisèle Pascal avec Éric-Antoine Lebon. C'est vrai que ce qui est amusant quand on se plonge dans ce type de livre, on peut se dire « bah tiens, j'ai jamais entendu parler de Gisèle Pascal, pourquoi lire une biographie sur Gisèle Pascal ?» Mais ce qui est intéressant, c'est de se plonger dans une époque qu'on a aussi un peu oublié avec d'autres références, l'époque des vedettes, hein, des stars et des vedettes avec différents niveaux de popularité et se rendre compte de quelles sont les personnalités qui comptaient à cette époque-là et quelles ne sont pas forcément celles dont on a l'impression aujourd'hui qui sont celles les plus importantes.
Absolument. Et c'est ainsi, je propose ainsi un peu une balade hein, dans le cinéma populaire des années 40 ou 50. En passant en revue en fait les différents films de Gisèle, parfois mauvais. Hein. Je trouve que c'est aussi très intéressant d'aborder des réalisateurs beaucoup moins talentueux et justement oubliés, mais voilà pour faire remettre un peu en lumière tout un cinéma de papa, mais qui finalement avait parvenu à atteindre son but, c'est-à-dire de distraire un public qui avait absolument besoin d'évasion.
C'est des films qui sont encore visibles aujourd'hui ?
Eh bien, parfois, c'est compliqué. Alors, certains films ont été réédités en DVD. C'est le cas des films les plus connus de Gisèle. Mais j'ai eu beaucoup de mal, et même je n'ai pas réussi à en visionner certains pour faire mon ouvrage, même en me rendant à la Cinémathèque ou au CNC, ça a été très compliqué pour certains. Ce qui est dommage, c'est que apparemment deux des meilleurs films de Gisèle, je pense à Véronique, qui est donc une adaptation de l'opérette de Messager, une opérette très connue, où ils sont tirés les airs comme Pousser, pousser l'escarpolette, ou De ci, de là, qu'un quart. Enfin, ça a été vraiment un gros, gros succès. Et aussi un film policier de Marc Morette, qui, hélas, sont totalement invisibles, que je n'ai pas pu visionner, hélas.
Et comment vous faites justement ces recherches lorsqu'il s'agit de chercher un film éventuellement disparu qui n'est pas disponible ni sur des plateformes, ni en DVD, nulle part ?
Ben là, donc j'essaie de renseigner aux archives de la Cinémathèque ou au CNC qui conservent donc des copies, mais les copies nitrates ne sont pas projetables, malheureusement, même sur un petit écran, là, sur un écran de contrôle. Donc, il y a quelques films, malheureusement, que je n'ai pas pu voir. Mais j'espère qu'un jour, ils auront l'occasion d'être projetés quelque part. Parce que même pour les projections sur grand écran, ça devient vraiment compliqué. Hein, parce que la plupart des salles sont maintenant équipées pour le numérique.
Oui.
Même les salles spécialisées sur le cinéma classique.
Oui, c'est un pan de cinéma qui, comme il n'a pas toujours été considéré, n'est pas forcément numérisé.
Exactement.
Donc,
exactement.
Risque paradoxalement de disparaître.
Oui, voilà, raison de plus pour essayer de le sauver d'une manière ou d'une autre en l'évoquant.
Et qu'est-ce que vous diriez justement à un potentiel spectateur pour qu'il s'intéresse à ce cinéma-là, qu'il ait envie de découvrir les films de Gisèle Pascal?
Ben, j'espère qu'ils ressentiront tout le... Gisèle Pascal, c'est vraiment une personnalité, un charme particulier, pas du tout sophistiqué, donc qui tranchait hein, par rapport à toutes les séductrices du cinéma français international de l'époque. Et donc, c'est en fait un certain naturel, une sorte de fraîcheur, de charme qui passe et qui sauve en fait les films les plus légers, les plus insignifiants. Et oui, j'aimerais la remettre en lumière. Elle le mérite parce qu'elle avait vraiment, beaucoup de talent. Et quand l'occasion lui en a été donnée, ne serait-ce que parfois des brefs second rôles, je pense par exemple à La femme publique de Zulawski, où elle tient vraiment un personnage, mais un contre-emploi total par rapport à ce qu'elle pouvait faire autrefois. Elle a toujours prouvé à quel point elle était une immense actrice. Pour reprendre les mots du neveu de Raymond Pellegrin, il se demande même si elle n'était pas meilleure que Daniel Darieux. Elle avait des capacités étonnantes qui n'ont malheureusement pas forcément toujours été, qu'elle n'a pas pu toujours exprimer.
Il n'est pas trop tard pour redécouvrir ou découvrir Gisèle Pascal, ses films et donc aussi sa vie riche et mouvementée dans cet ouvrage Gisèle Pascal, La princesse sans couronne, que vous publiez aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup Éric-Antoine Lebon d'être venu à Aligre FM nous en parler. Puis comme Gisèle Pascal venait du Sud, on va se quitter en musique avec un peu de Sud, le Sud de Nino Ferrer.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement. Un million d'années et toujours en été. Y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y'a plein de chiens, y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges, il ne manque rien. On dirait le sud, le temps dure longtemps. Et la vie sûrement, plus d'un million d'années. Et toujours en été. Did it, did it, did it, did it.
faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien, on n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.